Bonsoir à toutes et bienvenue sur les ondes de Radio Albigès pour votre journal d'information comme un lundi 7 septembre 2020. Au programme aujourd'hui, nous parlerons santé avec le docteur Rodeguero de l'établissement français du don du sang, habitat et mobilité électrique avec une convention signée par Enedis et Tarn Habitat. Et enfin, culture avec les événements programmés par la scène nationale et le Festival du Morse qui vous proposera un événement mêlant conte, théâtre et musique le 18 et 19 septembre prochain à Coufouleux. On commence ce journal d'information avec quelques brèves. Une campagne de dépistage du Covid-19 est organisée par l'ARS avec le soutien de la ville de Carmaux les vendredis 11, 18 et 25 septembre à Carmaux de 7h à midi, place de la Libération à côté de l'hôtel de ville. Cette campagne de dépistage du Covid-19 est gratuite et sans rendez-vous. Munissez-vous de votre carte vitale et carte d'identité. Le forum des associations de Saint-Juéry se tiendra le samedi 12 septembre de 13h30 à 17h30 en plein air au complexe de l'Albarette. Sur les stands, vous pourrez assister à des démonstrations, tester vous-même les sports ou loisirs présentés, vous informer et vous inscrire. Que vous ayez la fibre artistique, l'envie d'activité manuelle ou le besoin de vous dépenser, vous trouverez sûrement chaussures à votre pied. A noter que l'événement sera annulé en cas de pluie. Pour le forum des associations de Saint-Juéry le samedi 12 septembre. Afin de promouvoir la jeune scène locale, la médiathèque Pierre-Amalric d'Albi ouvrira le mercredi 2 décembre après-midi son auditorium à de jeunes groupes artistes albigeois et tarnais, en partenariat avec la MJC d'Albi. Les musiciens auront la possibilité de venir jouer quelques morceaux dans de bonnes conditions techniques devant le public de la médiathèque. La médiathèque recherche donc des musiciens, même débutants, âgés de 20 ans maximum et souhaitant se produire. Un comité de sélection retiendra entre 3 et 5 formations dans des genres musicaux différents. Les jeunes artistes intéressés peuvent contacter avant le 4 novembre en écrivant à sylvain.demonsan@grand-albigeois.fr. On continue en musique avec Pierre Perret qui nous chante « Les Confinis », un titre enregistré chez lui à la maison, interprété par Les Ogres de Barbac, Guillaume Lopez et Thierry Roch. Et on vous parlera tout de suite après de « Dons de sang ».
Comment aider ces pauvres gens qui agonisent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse? Pendant que les infirmières mouillaient la chemise, que les infirmiers faisaient suer Burnous, pendant qu'ils couraient tous dans la panade, dans les couloirs encombrés de Maccabées, les cherchaient pas pour soigner les malades, tous les docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés quand redoutait d'être in fine. Déconfinés. Ils décrétèrent un jour que les vieux de la vieille faut les achever à 70 balais, disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille, quand cette grippette les faisait bien marrer. D'un air savant, ils venaient faire des tirades, remplis d'avis et conseils empoulés. Pendant que l'hosto croulait sous les malades, nos braves docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Y'avait le raout, celui qui les enquiquine, qui les traitait tous comme des diaphoirus. D'après lui, y'a guère que sa chloroquine qui pourra foutre les chocottes au virus. La porte-parole, elle s'appelle Cybette, y'en a qui pensent qu'elle porte bien son nom. On sent bien que la moindre idée qui se pointe lui déclenche un ouragan dans le citron. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Soir aux infos, y'a le ton du lot de sadique qui compte les morts et puis y'a le défilé. des professeurs, des stars, des scientifiques, et puis le rouquin, la merloque, le cinglé. Et en fin de compte, on a su pour les masques qui étaient gérés par une bande de couillons. S'il en restait plus du tout, c'était parce que ils en avaient détruit 600 millions. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Les infirmières qui gagnent des clopinettes, même pas au SMIC, galèrent à tour de bras. On récompense nos courageuses causettes d'applaudissements, de médailles en chocolat. Mes petits marquis, vous devriez avoir honte. La dignité chez vous, elle est en deuil. Pas une seule de vos promesses à la gomme ont un jour consolé leur portefeuille. Vous nous avez confinés, puis déconfinés, puis reconfinés, mais vous vous resterez pour la vie déconfinés.
Pierre Perret sur les ondes de Radio Albigès avec Les Confinis. Tout de suite, on vous parle de dons de sang. Les établissements français du sang lancent un appel d'urgence nationale. Les réserves de sang sont très basses. Après des vacances d'été particulières durant lesquelles les donneurs ont été moins nombreux à se présenter en collecte de sang, l'établissement français du sang invite chacun à se mobiliser activement afin de rehausser rapidement les réserves en produits sanguins pour la rentrée. Nous avons rencontré Dr Rodi Guéraud pour nous en dire un peu plus. Docteur Rodi Guéraud, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes docteur à l'établissement français du don de sang ici à Albi. On va parler avec vous aujourd'hui de don du sang et de rappeler tout d'abord l'importance de donner son sang.
Oui, alors il est important de donner son sang parce que chaque année, nous avons de nombreux malades qui ont besoin de transfusions à l'occasion d'accidents, pour un traitement de maladies graves comme le cancer ou les leucémies, ou alors dans des opérations qui nécessitent des transfusions.
Combien de temps ça prend de donner son sang et quelles sont les conditions pour pouvoir donner son sang ?
Alors, on a l'habitude de dire, en une heure, on peut sauver 3 vies. Donc, il faut environ 1 heure pour donner son sang. Voilà, et on peut sauver 3 vies parce que grâce à un don de sang, on va, sur ce don, pouvoir utiliser les globules rouges, les plaquettes et le plasma pour 3 patients différents.
Ici, à Albi, on peut faire uniquement du don du sang ou est-ce qu'on peut donner aussi d'autres choses ?
Alors, les donneurs qui viennent sur nos collectes du Tarn font des dons de sang. On ne fait pas de dons par aphérèse, mais il faut savoir que sur le don de sang total qui est fait, on utilise les globules rouges, les plaquettes et le plasma.
Pour pouvoir donner de son sang, quelles sont les conditions à remplir ?
Alors, c'est très simple. Il faut être âgé de plus de 18 ans et moins de 70 ans, peser plus de 50 kilos et être en bonne santé. Pour le don, il faut arriver sans être à jeun, surtout bien hydraté. On conseille de boire 1 demi-litre de boisson dans l'heure qui précède le don.
Alors on peut faire tout simplement un test via votre site internet en répondant à 20 petites questions qui nous permettent de savoir au final si oui ou non on peut donner de son sang.
Oui, tout à fait. Il y a en ligne un questionnaire qui permet de vérifier en quelques questions l'aptitude au don de sang. Bien sûr, cette aptitude est ensuite vérifiée avec le médecin en entretien avec le médecin sur la collecte.
Alors, on peut donner son sang le mardi et le jeudi ainsi que le vendredi matin du côté d'Albi.
Oui, alors à la maison du don d'Albi, nous accueillons les donneurs le mardi et le jeudi de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h, le vendredi matin de 9h à 13h30. Et ensuite, nous collectons dans tout le Tarn sur les collectes mobiles, où nous sommes heureux de retrouver nos donneurs. Et nous avons des collectes événementielles, notamment prochainement à Albi, nous ferons une collecte Mon sang pour les autres, qui se déroulera sur la place de la cathédrale de 10h à 17h le samedi 26 septembre.
Très bien, merci docteur Rodeguero. Donc je rappelle, vous êtes médecin ici à l'établissement français de don du sang à Albi. Un petit mot pour terminer, pour encourager nos auditeurs à venir donner de leur sang.
Bien, écoutez, nous attendons nombreux sur nos collectes, les patients comptent sur vous. Vous partagerez avec nous un moment convivial avec l'équipe de l'établissement français du sang d'Albi.
Et bien sûr, on l'imagine, en cette période particulière de crise sanitaire, vous prenez toutes les précautions par rapport au don du sang et à cette crise sanitaire.
Oui, bien sûr, nous sommes très vigilants pour la sécurité des donneurs, des receveurs et également des équipes. Donc, nous appliquons des règles de distanciation et d'hygiène sur les collectes. Nous proposons un masque aux donneurs qui se présentent sur les collectes. Nous désinfectons très régulièrement tout le matériel de prélèvement. Et tout est fait dans les conditions de sécurité nécessaires.
Donc n'hésitez pas pour les auditeurs à aller consulter le site de l'établissement français du don du sang du côté d'Albi pour retrouver plein d'autres informations pratiques. Docteur Rodeguero, grand merci Père Toutaco, merci bien.
Merci beaucoup, au revoir.
Le 2 septembre 2020, Frédéric Godard, directeur territorial d'Enedis dans le Tarn, Elisabeth Claverie, présidente de Tarn Habitat, et Philippe Aspar, directeur général de Tarn Habitat, ont signé au siège de Tarn Habitat une convention de partenariat pour la mobilité électrique. Radio Albigès les a rencontrés pour en savoir un peu plus. Philippe Aspar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Tarn Habitat. Frédéric Godard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur territorial d'Enedis dans le Tarn. On se retrouve ce mercredi 2 septembre 2020 pour signer une convention de partenariat pour la mobilité électrique. Donc d'où vient cette initiative ?
C'est une initiative commune puisque nos services travaillent ensemble depuis quelques temps sur penser à la fois les infrastructures électriques de demain, puisque nous on réfléchit à de la production et on met en place de la production d'énergie électrique sur nos bâtiments, la manière d'économiser l'énergie, puisqu'on fait beaucoup de réhabilitation et de bâtiments performants, et puis la manière de penser aussi une mobilité qui soit plus écologique, soit en limitant les déplacements, soit en les organisant de manière plus verte. Et aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est une mobilité électrique.
Et oui, puisque donc Enedis vous offrez une voiture électrique à Tarn Habitat. Vous pouvez nous présenter un peu cette démarche ?
En fait, on est clairement aujourd'hui sur le symbole. En fait, hein. Ce qu'on a souhaité, c'est marquer un partenariat qui vient d'être signé avec Tarn Habitat à travers la mise à disposition d'un véhicule pour un usage urbain. Et c'est vrai que cette action-là vise finalement à, sur la durée, pour pouvoir être dans une logique d'accompagnement, de conseil, sur les problématiques énergétiques que Tarn Habitat peut se poser, aussi bien le développement des énergies renouvelables, comme ça vient d'être évoqué, mais également le développement d'un parc de véhicules électriques et la problématique d'implantation des bornes de recharge. Et on pourrait aussi travailler un troisième axe qui a été évoqué, c'est l'axe finalement de l'optimisation énergétique, puisqu'en fait Enedis dispose de données énergétiques qui peuvent être utiles dans, on va dire, la prise de décision de Tarn Habitat en matière de rénovation énergétique.
Alors Enedis et Tarn Habitat, acteurs de la transition du côté de Tarn Habitat, vous avez déjà depuis quelque temps une charte Eco 4, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors la charte Eco 4, en fait c'est un label qu'on a développé depuis plus de 10 ans maintenant, qui est destiné à favoriser les constructions de bâtiments très performants, d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue environnemental, par exemple être à proximité des services, services publics, des commerces pour limiter les déplacements. Un deuxième axe qui est porté sur la réhabilitation du bâti, la rénovation énergétique du bâti. On dépense plusieurs millions d'euros chaque année en amélioration énergétique. Il y a d'autres axes aussi parce que on s'en rend moins compte, mais on est gestionnaire aussi d'un parc de logements. Et donc, on peut agir par des modes de gestion, par des réglages de chaufferie, du pilotage de chaufferie, de la sensibilisation des locataires aux différents usages. Et donc, c'est la totalité des panels que l'on déploie pour améliorer la performance énergétique de notre parc. Et ensuite, en tant qu'entreprise responsable, on développe aussi des mesures internes pour limiter nos rejets en termes de fonctionnement interne de l'entreprise.
Du côté d'Inedis, j'imagine aussi vous tendez en faveur de la transition, notamment, j'imagine, de la transition énergétique.
Alors, il faut avoir en tête qu'Inedis, entreprise nationale, en fait, couvre 95% de la problématique de la distribution d'électricité en France, les 5% restants étant des régies locales, les régies locales. Donc en fait, on est un acteur, par la force des choses, un acteur clé du réseau de distribution. Et quand on parle transition énergétique, c'est vrai qu'on est amené à jouer un rôle et on nous attend sur un rôle d'accompagnement, de facilitation de la transition énergétique. Clairement, où on joue un rôle clé, si on prend l'exemple du Tarn, c'est le développement des énergies renouvelables, où toutes les nouvelles énergies renouvelables dans le Tarn, à titre indicatif, on a plus de 5500 producteurs d'énergie renouvelable dans le Tarn, sont toutes raccordées au réseau de distribution. Donc en fait, on doit gérer cette problématique d'injection d'électricité sur un réseau dont l'origine finalement est plutôt au départ d'alimenter des clients industriels, collectivités ou entreprises. Et la problématique de la mobilité, qui est en émergence aujourd'hui, va devenir un sujet central dans les années à venir, avec l'ambition de la loi de mobilité qui a été récemment votée, qui prévoit quelques millions de véhicules à une horizon qui est finalement relativement proche. Donc il faut travailler en bonne intelligence avec les acteurs du territoire pour pouvoir aménager de manière, pertinente finalement l'implantation des bornes de recharge et gérer la problématique de soutirage d'électricité qui, demain, quand tout un chacun sera équipé de véhicules électriques, va générer aussi des appels de puissance en fin de journée quand les gens vont rentrer chez eux. Voilà. Donc il faut gérer cet équilibre entre la demande d'électricité, la production. Et donc il faut travailler ensemble sur cette problématique qui est nouvelle et qu'on doit appréhender de manière collective.
Frédéric Godard, donc directeur territorial d'Enedis dans le Tarn, merci bien. Je me retourne vers vous, Philippe Aspar, donc directeur général de Tarn Habitat. Vous parlez tout à l'heure de réhabilitation. On sait que du côté de Cantepo, il y a un grand projet, Cantepo Demain, l'ANRU, l'Agence nationale de réhabilitation urbaine, donc une réhabilitation du quartier avec des destructions d'immeubles, aussi des nouvelles constructions. Et bien sûr, il y a aussi cette dimension de réhabiliter, mais en faisant des immeubles peut-être qui vont consommer moins d'énergie.
Alors, le programme démarre juste. En fait, la convention a été signée en 2019 avec l'ANRU, la ville, l'agglomération et puis un certain nombre de partenaires. Mais les trois maîtres d'ouvrage principaux sont la ville d'Albi, l'agglomération albigeoise et Tarn Habitat. Donc effectivement, dans ce programme, on a un volet démolition et reconstitution d'une offre très performante, donc démolition dans le quartier pour favoriser le réaménagement du quartier, pour réorganiser la mixité sociale à l'échelle de la ville. Deuxième chose, on a de la réhabilitation sur plus de 180 logements dans le quartier, et donc c'est aussi des réhabilitations qui vont porter ces immeubles au label BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, avec sur certains immeubles la production d'énergie photovoltaïque et également des bornes de recharge en parking souterrain.
Merci bien, donc Philippe Aspar, directeur général de Tarn Habitat. Au revoir.
Au revoir.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès pour votre journal d'information comme un lundi, du lundi 7 septembre 2020. A noter que du côté de Cantepo, le printemps des cultures se déroulera du 16 au 18 septembre avec de nombreuses animations et notamment un stand d'information sur le projet de l'ANRU Cantepo Demain. On continue en musique avec Pahamat et Bernardo Sandoval, à retrouver en concert gratuit le vendredi 18 septembre à 22h pour le Festival du Morse dont on vous parle tout de suite après.
toro dembo samandile yayo de manoro toro birayo biraibo birayo jabi ajoro bambo samandile yayo de manoro toro birayo biraibo birayo jabi. Samandile jabaro jarite mandimba moriwo alalibe maro kumajaro samandinge jere tabo fura mabole rojumbeje kabaruo sali jere te samandinge joto yamaro dobo yanya wumpo yanya yamaro dobo yanya. Ajoro bambo, samandile yayo de manoro toro, birayo, biraibo, birayo, jabi. Ajabi Afrika woy,
ajabi Afrika,
ajabi Senegal,
ajabi Senegal,
ajabi Mali.
Ajabi Mali,
ajabi Guine,
ajabi Guine,
ajabi Niger,
ajabi Niger,
ajabi Nigeria,
ajabi Nigeria,
ajabi Burkina Faso,
ajabi Burkina Faso,
ajabi Gambia,
ajabi Gambia.
Ajabi Côte d'Ivoire,
ajabi Côte d'Ivoire,
ajabi Benin,
ajabi Benin,
ajabi Cameroun,
ajabi Cameroun.
Kubaria baro elendo majama, moriwo alalibe. Samana samandinge joto wo 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 yayo yamaro tanye wo 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 yayo yamaro joya.
La 9e édition du Festival du Morse se tiendra le 18 et 19 septembre du côté de Coufouleux, avec un beau programme qui proposera des concerts avec un orchestre de cuivre, Pahamat Quartet et Bernardo Sandoval, ainsi que l'artiste Moussuté et les Jovens, mais aussi il y aura du conte, des marionnettes et bien sûr du théâtre. Pour nous en parler, nous sommes avec Simon. Simon, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Alors Simon, tu es comédien, tu es aussi salarié dans la Compagnie du Morse. Alors la Compagnie du Morse, c'est une association qui depuis plus de 30 ans s'investit autour du spectacle vivant et plus particulièrement autour du théâtre.
Oui, c'est ça. Ça fait 30 ans qu'on... Au début, elle était pas à Coufouleux, elle était en Haute-Garonne, du côté de Toulouse, et là ça fait quelques temps qu'on est à Coufouleux et qu'on développe des ateliers pour les enfants, pour les adultes aussi, qu'on fait venir des compagnies, qu'on produit des spectacles, qu'on en crée, voilà. Il y a le festival qui est pour la 9e édition à Koufoule. Voilà.
La 9e édition du Festival du Morse qui se tiendra donc du côté de Koufoule le 18 et 19 septembre. Donc une programmation, comme je le disais, qui mêle donc bien sûr du théâtre, il y a de la marionnette, du conte et des concerts. Si tu aurais quelques spectacles à nous présenter sur ces deux jours, tu choisirais lesquels ?
Oh, bah, déjà j'inciterai d'aller les voir tous. Parce que je pense qu'on a, j'ai fait partie de la commission de programmation et on était assez content de la programmation cette année, comme d'habitude un petit peu, mais voilà. Il y a les deux concerts que vous connaissez sûrement, pas Matt le Quartet et Bernardo Sandoval, Moussouté et l'Ogresse Poilu qui est un conte musical avec des masques et de la marionnette pour petits et grands. Donc un spectacle assez familial. Il y a Passe par la fenêtre et court de la compagnie Happy Face, qui est un spectacle de danse qui mêle danse et jonglage. C'est une compagnie de Toulouse, de la Grainerie. Voilà, qu'on est très heureux de l'accueillir. Voilà, un spectacle aussi de Alexis Del Mastro, la compagnie de l'autre. Donc ça, je peux pas vous en dire beaucoup, mais il y a une surprise. Mais c'est un concert humoristico-philosophique qu'on a écrit, avec beaucoup de surprises, je pense. Voilà.
Alors, on va préciser, les concerts sont pour la plupart gratuits. Après, il y a des spectacles payants, mais heureusement, Radio Albigès, partenaire de la compagnie du Morse, offrira donc deux places au choix pour les spectacles au choix en contactant tout simplement Radio Albigès. Toutes les informations et la programmation est à retrouver donc sur votre site, lacompagniedumorse.com. Alors Simon, peut-être un mot à rajouter pour terminer cette interview ?
Ouais, j'ai deux petites choses à dire. Ben, la première, c'est que malgré le contexte sanitaire qui empêche à des moments des événements culturels de se faire, pour rassurer le public et puis pour les mettre dans de bonnes conditions, on a mis en place un protocole qui a été validé par la préfecture pour respecter les mesures et que ces mesures ne soient pas trop contraignantes et puis qu'elles favorisent aussi le bon vivre du festival, que le festival reste un lieu convivial, voilà, malgré tout ce protocole. Voilà. Et puis un deuxième petit mot, c'est que Moussouté, c'est un plaisir de les avoir cette année parce que ça rend hommage aussi à un bénévole qui nous a quittés pendant le confinement. Donc voilà, et qui avait un amour pour la langue occitane et pour le festival et pour la compagnie qui nous a suivis en tant que bénévole chaque édition, voilà. Donc on y aura un petit hommage en les faisant venir ce groupe, donc voilà. C'est un plaisir qu'il soit là.
Et c'est pour nous aussi un grand plaisir voilà, de pouvoir voir Moussouté et les Jubens en concert du côté de chez nous dans le Tarn. On va le préciser aussi qu'il y aura sur place la buvette et la restauration. Et puis on espère qu'on entendra beaucoup de rires même à travers les masques.
Oui, voilà, j'espère aussi. Et pour ceux qui ne connaissent pas Moussouté, bah, c'est... je pense qu'il y a pas mal de gens qui les connaissent, mais il y a quelques membres du groupe qui font partie de Massilia Sound System, qui est peut-être un peu plus connu. Donc voilà, ça peut faire venir des gens aussi, c'est bien.
Allez Simon, grand merci Père Toutaco, comme on dit chez nous. Grand taïoli sur la compagnie du Morse qui organise la 9e édition du Festival du Morse le 18 et 19 septembre du côté de Koufoule. On vous souhaite donc un bon festival.
Merci beaucoup.
Et on se quitte en musique, bien sûr, avec Moussouté et les Jouvens.
Merci.
Oh, yeah. Si tu veux donc trouver plein ton planisphère, mets le doigt sur cette tache bleue. Il y a un petit point tout au bord de la mer, c'est là qu'il te faut poser les yeux. Pour venir jusqu'ici, si tu as quelques doutes, tu demanderas un cargo. Tous les navires du monde connaissent la route de la maternité des bateaux. Bienvenue à l'Oussa, Occitanie sur mer. Ici c'est sur le tas.
Mercredi 2 septembre dernier, nous avons rencontré à l'occasion d'une conférence de presse Martine Legrand, directrice de la scène nationale d'Albi. Nous vous proposons un extrait de cette conférence où il sera présenté le printemps en septembre. Une série de propositions artistiques qui se déroulera du 20 au 27 septembre. Premier rendez-vous le 20 septembre à 15h avec deux concerts qui mettront la culture occitane à l'honneur. Concert du duo Cocagne et le chœur polyphonique San Salvador. On écoute donc Martine Legrand, directrice de la scène nationale d'Albi.
Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour effectivement cette petite présentation de notre saison. Alors, si vous me le permettez, je vais vous faire un petit préambule. Ensuite, je vous parlerai du printemps en septembre, l'événement que nous avons la troisième semaine de septembre, qui en fait sont les reports des spectacles que nous n'avons pas pu avoir la saison dernière. Alors, en préambule, eh bien, peut-être commencer par notre ressenti, vous dire que l'équipe a ressenti un grand vide quand il a fallu effectivement arrêter toute activité. Donc, comme beaucoup d'entreprises, nous avons senti ce vide, ce manque, on était totalement déstabilisés. Il a fallu effectivement, à partir de ce bouleversement, de s'adapter forcément, nécessairement, aux conditions nouvelles. Je tiens à remercier les publics pour, pour leur soutien, leurs gestes solidaires, leurs témoignages d'amitié, leur encouragement. Et je tiens aussi à remercier les collectivités. Ce n'est pas un vain mot, les institutions aussi, parce que effectivement, les collectivités locales, les partenaires, la ville d'Albi, naturellement, le département, mais aussi la DRAC, nous avons quand même été très proches pendant cette période de confinement. Voilà, il y a eu des échanges, bien entendu. Nous étions, on échangeait sur ce qui se passait à la scène nationale, et puis inversement, voilà, la DRAC nous prévenait des différents décrets, puisqu'il a fallu effectivement beaucoup travailler pendant ces 3 mois, comme beaucoup, parce que tout était continuellement en changement, tout ce qui était chômage technique, chômage partiel, etc. Pendant cet arrêt imposé, vous dire rapidement que le plus dur, ça a été de garder le lien avec nos équipes, le public et les artistes. Alors nos équipes, parce que vous savez, équipe administratrice, mais aussi équipe technique, les intermittents du spectacle, le public, les artistes naturellement, et voilà, garder ces échanges, garder ce lien. Vous dire aussi que, comme beaucoup d'autres, mais nous avons soutenu les équipes artistiques, techniques et les intermittents du spectacle en honorant tous les contrats que nous avions signés jusqu'à la fin juin 2020. Nous avons aussi accueilli des compagnies en résidence dès que nous avons pu le faire, c'est-à-dire fin juin, début juillet, des compagnies en résidence qui ont pu travailler dans les conditions sanitaires de l'époque. Et ensuite, nous avons aussi pu quand même rouvrir notre cinéma d'art et d'essai qui a repris début juillet. Et nous avons d'ailleurs pu proposer de la VOD, VOD qui est encore active et qui, je crois, a été appréciée par notre public. Nous avons donc eu le temps aussi pendant 3 mois d'imaginer le printemps en septembre, c'est-à-dire les spectacles que l'on eut le mois de septembre 2020. Tout en préservant nos missions essentielles, c'est-à-dire le soutien à la production des œuvres, donc ça c'est le travail avec les résidences, la transmission des œuvres, leur diffusion. Alors là, bien entendu, on a essayé de tout faire pour redémarrer effectivement à cette rentrée, et puis continuer à travailler sur la médiation culturelle avec la formation des publics jeunes, et ça nous l'avons fait surtout avec le cinéma d'art et d'essai pendant le mois de juillet. Voilà en quelques mots ce petit préambule. Alors, donc, le printemps en septembre. Donc, c'est un retour pour nous qui se veut extrêmement festif, joyeux, tout en essayant, bien entendu, de suivre les protocoles sanitaires du moment et regarder tout cela de très près. Alors, nous savons aujourd'hui le décret du 2 septembre qui a conforté le décret du 10 juillet dernier nous permet, en tous les cas, dans le Tarn, à l'heure où je vous parle, donc, de recevoir des spectateurs sans la distanciation sociale et spatiale, mais avec le port du masque obligatoire. Alors, inutile de vous dire que cela nous a soulagés. Maintenant, jusqu'à quand cela va-t-il durer? Bon, en tous les cas, on en est très, très heureux parce que, bien entendu, tout ce que nous avions imaginé va pouvoir quand même se mettre en place. Alors finalement, nous avons pu reporter 7 spectacles, mais le pari, c'était de faire un petit événement joyeux, festif, enfin reprendre un petit peu tout cela en fanfare et donc de regrouper cela pendant une semaine, ce que nous avons réussi à faire. Nous aurons donc 14 représentations. Alors pour nous, ce n'est pas la nouvelle saison, c'est bien la saison passé qui a été un petit peu reporté, mais qui ouvre quand même notre activité qui reprend. Alors parmi ces 7 spectacles, rapidement, nous aurons un concert le dimanche avec le duo Cocania qui chante en langue occitane, et là nous souhaitions un bal. Alors ça ne sera pas un bal, ça sera sous forme de concert où le public sera debout et assis à sa convenance à l'extérieur. Mais au départ, c'était prévu comme un bal. Et le groupe San Salvador, qui est lui un chœur a cappella, un jeune chœur a cappella polyphonique, quelque chose de très joyeux, de très dansant, et effectivement qui nous rappelle pour voilà, nos origines occitanes, enfin pour certains d'entre nous, pas tous, mais en tout cas, voilà, quelque chose d'assez festif. Ensuite, le cirque Aïtal. Le cirque Aïtal, nous avons pu tout reporter, c'est-à-dire les quatre représentations de saison de cirque, le spectacle du cirque Aïtal, avec chevaux, musiciens, acrobates, jongleurs, des Russes, des Finlandais, des Français, pour un hommage au cirque contemporain et au cirque de toujours. Alors, au jour d'aujourd'hui, tous ces artistes pourront venir, les Russes, les Finlandais. Normalement, ils sont tous là. Ensuite, nous continuerons avec le Molière de l'humour. Molière de l'humour 2016, Alex Lutz. Alors, je ne le présente pas, vous le savez. Cette création, elle est véritablement particulièrement brillante. Moi, j'ai été extrêmement surprise par la qualité du jeu. La plume très très affûtée d'Alex Lutz, et voilà, et toute la thématique est une thématique sur les gens qui doutent, ceux qui ne sont pas forcément des gagnants, quelquefois des losers dans la vie. On découvre qu'Alex Lutz est un cavalier émérite, hein. Il maîtrise un pur sang blanc sur la scène, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment un très très beau spectacle et qui nous change de ces one-man shows un peu quelquefois. Bon, voilà, je trouve qu'il y a une vraie vraie profondeur, un tout magnifique spectacle. Ensuite, Mémoire en short. Alors là, c'est l'humoriste Olivier de Robert qui nous raconte des histoires truculentes autour du sport. Gaïa, un spectacle pour le jeune public qui se passe dans un camion, le camion à histoire. C'est l'histoire d'un enfant, Nino, qui quitte sa terre et qui, avec ses parents, forcément, part pour un grand voyage aventureux vers d'autres terres. Un camion à histoire, c'est-à-dire nous avons des projections vidéo dans le camion et nous sommes entourés par des images extrêmement poétiques sur un sujet d'actualité, naturellement. Une compagnie du Tarl avait la compagnie No Kill et le spectacle Turing Tech, qui s'inspire d'Alan Turing, le fondateur de l'informatique. On est invité dans un laboratoire foisonnant de robots et d'objets détournés. Pour ceux qui la connaissent, la compagnie No Kill, c'est vraiment du théâtre un peu performatif, comme on le dit maintenant. C'est-à-dire, c'est à la fois des installations et puis du spectacle. Et enfin, on terminera ce printemps de septembre avec Birds on the Wire, Rosemary Stanley et Don La Nena. Donc, Rosemary Stanley vient, ex-chanteuse du groupe Moriarty. Et c'est une reprise raffinée d'œuvres baroques, mais aussi d'œuvres maloya, les chants et danses de la Réunion, du pop, de la rock, puisqu'il y a Dylan, Pink Floyd. Voilà. Donc, on terminera par ce concert. Voilà, c'est 7 spectacles, 14 représentations en une semaine. Donc nous espérons que le pari sera tenu et que le public aura envie de revenir pour ce printemps en septembre.
Martine Legrand, directrice de la scène nationale d'Albi, avec un extrait de la conférence de presse qui s'est déroulée le mercredi 2 septembre dernier au Grand Théâtre Le Cordelier à Albi. On écoute maintenant le groupe Cocagne, que vous pourrez apprécier le 20 septembre prochain à partir de 15h au théâtre de la scène nationale d'Albi. Cocagne sur les ondes de Radio Albi Jazz. Vous pourrez les retrouver le dimanche 20 septembre sur le parvis du Grand Théâtre à Albi. Vous pourrez aussi apprécier à cette occasion le chœur polyphonique San Salvador, une ouverture du printemps en septembre qui mettra donc la culture occitane à l'honneur. A noter que demain, mardi 8 septembre, vous pourrez regarder en streaming et à partir de 18h30 la présentation de la saison 2020-2021 de la scène nationale d'Albi. Le lien sera disponible dans l'après-midi sur le site de la scène nationale d'Albi. On termine ce journal d'information du lundi 7 septembre 2020 avec quelques émissions à retrouver cette semaine sur les ondes. Et oui, c'est la rentrée pour certains animateurs de Radio Albigès. Vous pourrez retrouver l'émission Lusophonie ce lundi à 14h, mercredi à 8h du matin et samedi à 15h. L'émission Ouverture classique mardi à 16h et dimanche matin à 8h. L'émission Garde à Rem la Terre mercredi à midi et à 18h qui sera consacrée au cochon noir de Vaour. Mercredi à 19h, l'émission Troubadour Occita. Et vendredi, votre magazine à Toutarn sera consacré au Coco Jazz Festival, un festival qui se déroulera du 16 au 20 septembre à Gaillac. On termine d'ailleurs ce journal d'information comme un lundi avec le groupe Gazi Jazz Project qui sera retrouvé le samedi 19 septembre prochain à Gaillac pour le Coco Jazz Festival. Bonne écoute, bonne escoute et al plaisir.
Balike sarike tu mikiani masu wanduku Naka kunaza inda indai Umaizi nasa tinza inira una Misangia Isata Nifanaichu Mifali manda karivani ya wanatichu Izan tuntulu retizan Numena ai jena kude fituko Famasu Mama
Les cultures d'ici et d'ailleurs sur Radio Albigès, votre radio collective d'action locale sur 95.4 ou 104.2 ou sur internet radioalbigès.com.